On va lire deux versets. Donc, comme c'est la période de Noël, j'aimerais vous apporter un message sur Noël. Matthieu 1, versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Seigneur pour ce privilège d'être ici ce matin au milieu de vous. Et pendant que je conduisais et pendant que j'étais encore ici, assis là au moment de la louange, je remerciais le Seigneur pour une chose. J'ai dit, Seigneur, merci de ce que je suis ici à Boisvillers, parce que c'est là que tu veux que je sois en ce moment. Voilà, le Seigneur est bon, il est magnifique. Et j'ai beaucoup apprécié aussi ma sœur qui priait aussi en roumain. Je dis, c'est extraordinaire, cette liberté que nous avons dans le Seigneur. Et merveilleux. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ça me faisait penser à ce passage dans Apocalypse. Et au ciel, on a des gens de toute tribu, de toute race, de toute langue, eh bien, qui louaient, qui célébraient le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne fait exception de personne. Il ne fait pas de discrimination. Il nous accepte tous, sans exception. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son amour est extraordinaire. Pour revenir à notre message, Matthieu 1, 22-23, le verset que j'aimerais souligner, c'est surtout le verset 23. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En fait, c'est un passage, c'est une citation d'un passage de l'Ancien Testament que nous trouvons dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Où il est écrit ceci. En fait, on pourrait lire même avant cela, comprendre un peu le contexte de cette annonce. L'Éternel, en partie du verset 10, l'Éternel dit encore à Akaz, demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne provoquerai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Et toujours dans Ésaïe, chapitre 8, on va lire verset 8. Il pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera, et ce jusqu'à la hauteur du cou, le déploiement de ses ailes remplira tout son territoire, Emmanuel. On va continuer la lecture jusqu'au verset 10, verset 9. Poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointain. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisé. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. C'est toujours le mot Emmanuel. Qu'est-ce que cette prophétie nous dit? Si nous revenons donc à Matthieu, où Matthieu ici parle de la venue du Messie. La première chose que j'aimerais dire, c'est, je vais diviser cette phrase en trois parties. La première est, la Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte. Quelle chose extraordinaire! A-t-on jamais entendu pareille chose avant? Une Vierge qui aura conçu un enfant sans l'intervention de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que à Dieu, rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible. La Vierge sera enceinte. Sans l'intervention d'un homme, elle sera enceinte. Et ça rappelle aussi l'histoire d'Abraham et Sarah. Abraham était vieux, très vieux. Sarah aussi était vieille. Et pourtant, Dieu a dit qu'il allait leur donner un fils, Isaac. Humainement parlant, c'était impossible. Et d'ailleurs, l'enfant qui naîtra d'Abraham et de Sarah, on l'appellera Isaac, qui signifie celui dont on a ri. Parce que on pourrait dire, c'est risible, cette chose. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. Je me rappelle, moi, personnellement, quand je devais venir ici en Belgique, pour ceux qui n'avaient pas encore entendu mon témoignage, je rappelle brièvement quelques points. Le Seigneur m'a appelé en lisant sa parole. J'allais à l'école secondaire. Et à un moment donné, il y a un groupe qui s'appelle les Gédéons. Je crois que vous connaissez les Gédéons. Et c'est le groupe qui distribue des Bibles dans les écoles, les hôpitaux, les hôtels, etc. Et j'ai reçu ce Nouveau Testament. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire, à dévorer ce livre, et que j'ai trouvé extraordinaire. Et je me rappelle, avant, j'étais très philosophe, j'aimais les grands auteurs, etc. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, mais toutes les vérités que les grands auteurs disaient, eh bien, se trouvent dedans. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je n'avais pas entendu ces choses-là auparavant? Et donc, à l'époque, j'étais un catholique bien dévoué, tout ça, celui qui ne pouvait pas manquer une messe le dimanche. Vous savez que dans l'Église catholique, manquer un dimanche à la messe, c'est péché. Et à partir du moment où j'ai découvert cette parole, et je me suis mis simplement à lire la Bible et j'ai arrêté d'aller à la messe. Et à l'époque, les églises protestantes ou évangéliques n'étaient pas très populaires. Pour moi, je pensais qu'il n'y avait que l'Église catholique. Et après avoir lu ce livre, et maintenant mes yeux se sont ouverts et je commençais à voir s'il y avait ailleurs, d'autres endroits où on prêchait cette parole telle qu'elle se trouve donc dans la Bible. Et c'est ainsi qu'en me promenant, j'ai découvert que bon, il n'y avait pas que l'Église catholique, il y avait d'autres églises qui existaient. Et j'ai essayé de trouver une église qui correspondait plus ou moins à ce que je voyais dans la Bible, comme dans Actes des Apôtres, etc. Et donc, à partir de ce moment où j'ai lu la Bible, j'ai dit, Je veux faire connaître cette parole. Puisque cette parole m'a été cachée pendant longtemps, je veux faire connaître cette parole. Et au même moment aussi, j'ai reçu l'appel du Seigneur. Je savais que si je devais propager cette parole, je devais être formé. Et c'est ainsi que, dès le début, le Seigneur a mis dans mon cœur la conviction que je devais aller étudier donc à l'école biblique. Et quand j'ai eu cette conviction-là, il y avait quelque chose qui était clair tout de suite, de manière mystérieuse, c'est que je savais que je devais partir à l'étranger. Je savais que je n'allais pas étudier en Haïti, et je savais aussi que je n'allais pas étudier aux États-Unis. C'était les deux certitudes que j'avais, ni en Haïti, ni aux États-Unis. Et donc, à partir de ce moment-là, je disais à tout le monde, à toute ma famille, qui était contre moi, parce que j'étais le premier converti dans la famille, j'étais considéré comme fou, et je disais à tout le monde que j'allais voyager pendant 3 ans. Et tout le monde me disait, mais comment est-ce que tu vas payer tes études? Comment est-ce que tu vas payer ton voyage? Parce qu'il n'y a personne qui te soutient dans la famille. J'ai dit, c'est pas grave. Le Seigneur m'a appelé et le Seigneur pourvoira. J'étais peut-être naïf, mais le Seigneur était avec moi. Et quand le moment est arrivé pour voyager, il y a un missionnaire américain qui est venu rendre visite à mon église en Haïti. Et le pasteur lui en a parlé et lui a dit, donc voilà, on a un jeune homme ici dans l'église qui a reçu l'appel du Seigneur et qui aimerait aller étudier. Et ce pasteur, donc ce missionnaire, à ce moment-là, m'a donné 2 adresses. Une adresse au Canada et une adresse, à la Belgique. Parce qu'il a, il avait été en Belgique, il était de passage et comme ça il connaissait l'adresse du CTS. Et voilà que j'ai écrit aux deux écoles et c'est le CTS qui m'a répondu en premier. Le Canada m'a répondu après, quelques mois après. Mais il y avait un problème. Quand le CTS m'a répondu, ce n'était pas une réponse positive tout de suite. Ils ont dit que je n'entrais pas dans la catégorie des gens qu'on accepte à l'école. Je n'entrais pas dans la catégorie. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Ils disaient que ceux qu'on acceptait à l'école, c'était les Européens, les Africains et les Asiatiques qui résidaient en Europe. Et moi, comme je venais d'un autre continent, je n'entrais pas dans la catégorie. Et je me rappelle à ce moment-là, après avoir reçu la lettre, je participais à un groupe de prière. Et je me rappelle toujours, je suis allé vers une sœur et j'ai dit, « Ma sœur, voilà, ça fait longtemps qu'on prie pour ce projet, mais voilà, on m'a dit que je n'entrais pas dans la catégorie. » Et cette sœur m'a dit, ne t'inquiète pas, si c'est la volonté du Seigneur, eh bien, il ouvrira les portes. Et donc, après avoir reçu la lettre, tout naturellement, je suis allé voir le missionnaire qui habitait à 250 kilomètres de la ville d'où je viens, parce que moi, je viens de la deuxième ville d'Haïti, dans le nord, et le missionnaire se trouvait à la capitale, à Port-au-Prince. Et donc, j'ai fait le voyage pour aller le voir. J'ai dit, voilà, j'ai reçu une réponse de l'école biblique, mais on dit que je n'entre pas dans la catégorie. Ils m'accepteront à une condition que j'ai une recommandation spéciale. Et là, ce missionnaire m'a fait cette recommandation spéciale. Et c'est ainsi que le 6 septembre 1980, je suis arrivé en Belgique. Donc le Seigneur est vraiment grand. Et avant de partir, un an avant de partir, ma mère qui était tout à fait contre moi s'est convertie. Et alors, elle a dit, OK, je vais t'aider à payer tes études. J'ai dit, d'accord, tu vas m'aider seulement la première année. Mais après, le Seigneur pourvoira. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Elle m'a aidé la première année et le reste, le Seigneur a fait des miracles extraordinaires. Comme par exemple, à un moment, je vais dans ma boîte aux lettres, quelqu'un met une enveloppe avec de l'argent et disant, voilà, c'est pour toi. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui a payé cela. Ou d'autres circonstances encore, ou sur mon compte à l'école, et quelqu'un a payé certaines parties des frais, ou encore le Seigneur qui ouvre des portes pour que je puisse travailler à l'école biblique même. Et donc, Dieu est vraiment grand et rien n'est impossible au Seigneur. Les hommes marchent selon les statistiques. Je me rappelle, souvent, quand les hommes considèrent certaines situations, prenons le cas, par exemple, dans le cas du football, parfois avant un match, tu entends, ah, telle équipe n'a jamais gagné contre telle équipe à domicile, ou telle équipe n'a jamais, etc. Alors les gens considèrent ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir donner un avis par rapport au futur. Et donc, si ça s'est passé comme ça, eh bien, ça va se passer comme ça dans l'avenir. Mais pour nous chrétiens, nous ne dépendons pas des statistiques, nous dépendons de la parole de Dieu. Amen. De même que on n'avait jamais vu une vierge enfantée sans l'intervention humaine, eh bien, Dieu l'a fait. Et c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. On n'avait jamais vu un vieil homme et une vieille femme enfantés. Et Dieu l'a fait. Et bien des fois, nous trouverons dans des situations où on va nous dire, mais on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais vu ça auparavant. Mais que nous dit la parole de Dieu? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses que Dieu a réservées pour ses enfants. Amen. Donc, à Dieu, rien n'est impossible. Quelqu'un dira, ah, cette maladie, c'est un type, une maladie spéciale, ou cette situation, elle est différente. Mais à Dieu, rien n'est impossible. On a fait appel à Jésus. Ton ami Lazare est malade. Et Jésus aurait pu aller tout de suite. Les gens avaient déjà vu des guérisons. Mais la résurrection, c'est un cas spécial. Et alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, il a traîné. Il a passé 4 jours dehors jusqu'à ce que Lazare soit mort. Et quand Jésus arrive à Béthanie, et alors voilà Marie qui accourt, Marthe qui accourt à son tour, et chacune disant, « Ah, maître, si seulement tu avais été là !» Et Jésus de répondre à Jean 11:40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et Marthe disait, ah oui, je sais la résurrection à la fin des temps. Mais Jésus dit, je suis la résurrection. Amen. Je peux le faire maintenant. Et alors Jésus a parlé. Et Lazare est sorti. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. La Vierge sera enceinte. La vierge sera enceinte. Dieu a parlé, Dieu le fera. Dieu a dit, c'est la vérité. Le deuxième point, la vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils. Elle mettra au monde un fils. Le deuxième point, c'est que Dieu garde toujours ses promesses. Il respecte toujours ses promesses. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui font des promesses à tout bout de champ, continuellement des promesses. Et bien souvent, sachant pertinemment qu'ils ne respecteront pas leurs promesses. Mais pour apaiser quelqu'un ou pour échapper d'une situation, ils font des promesses en l'air. Mais heureusement que notre Dieu, il n'est pas ainsi. Lorsque Dieu dit quelque chose, nous savons qu'il le fera. Amen. Bon, parfois, il y a des gens qui font des promesses de mauvaise foi. Mais parfois aussi, nous faisons des promesses de bonne foi. Mais malheureusement, nous n'avons pas la capacité toujours de respecter ces promesses. Je voudrais bien, mais parce que nous sommes limités. Parfois, nous nous trouvons dans des situations où on aimerait qu'un proche nous aide, qu'un ami ou que la famille nous aide. Peut-être que cet ami, cette personne proche voudrait, mais cette personne n'a pas les capacités. Mais heureusement, notre Dieu, lui, il a la toute-puissance. Amen. Notre Dieu a la toute-puissance. Et ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Et Dieu dit, eh bien, elle mettra au monde un fils. Elle mettra au monde un fils. Et donc, ce que Dieu dit, il l'accomplira. Peu importe le temps que cela prend. Peu importe les obstacles. Peu importe les difficultés. Peu importe les adversités, la promesse de Dieu s'accomplira. Vous savez, Satan savait que le Messie descendrait de David. Et ainsi, lorsque vous étudiez l'histoire dans l'Ancien Testament de la lignée de David, eh bien, vous verrez que combien de fois cette lignée a été attaquée, bien des fois presque éradiquée. Mais toujours, il y avait quelqu'un qui a pu échapper dans cette lignée. Et on dirait à chaque fois, c'est comme de justesse qu'il y a une postérité. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu promet, eh bien, il accomplira sa promesse. Et bien des fois même, cette lignée de David a mis Dieu en colère. Et Dieu, des fois, menace même de tuer certaines personnes dans cette lignée. Mais Dieu dit toujours, à cause de ma promesse vis-à-vis de David, eh bien, je garde quelques-uns, je garde un petit reste dans cette lignée. N'est-ce pas extraordinaire? À cause de ma promesse. Et bien des fois aussi, Dieu dit à Israël, à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob, à cause de ma promesse, eh bien, je ferai ceci ou cela. Donc, Dieu tient sa promesse. Amen. Si Dieu nous a fait une promesse aujourd'hui, si Dieu nous a donné une vision aujourd'hui, si Dieu nous a parlé aujourd'hui, peu importe les adversités, peu importe les obstacles, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur, il accomplira sa promesse, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour dire, ah, désolé, j'étais de bonne humeur quand je t'ai dit ça, mais aujourd'hui, je suis déprimé, ou bien je t'appréciais à l'époque, mais maintenant je ne t'apprécie plus. Non, 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 Dieu ne change pas. Il est le Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, eh bien, il est lié par sa parole. il est lié par sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, c'est déjà une réalité. Vous vous souvenez quand Isaac, quand Jacob et Ésaü, Isaac avait demandé à Ésaü de lui préparer un repas. Ésaü est parti et il a mis du temps. Et alors, Jacob, à l'instigation de sa mère, a préparé donc le repas à la place de son frère et il est allé apporter le repas à Isaac. Et Isaac donc avait bien apprécié donc le repas et il a béni Jacob. Il a béni Jacob et à peine que Jacob était parti, voilà qu'Ésaü entre auprès de son père disant, et son père a mangé, il dit, Père, bénis-moi. Isaac dit, désolé, ta bénédiction, je l'ai déjà donnée à Jacob. Il avait déjà prononcé cette parole. Et donc, ce qui est dit sera fait. C'est pas comme les hommes qui disent des choses qui après se dédisent. On voit des hommes politiques qui racontent une chose aujourd'hui et puis demain racontent autre chose. Et heureusement, aujourd'hui, il y a des enregistrements vidéo. Et malgré les vidéos, ils continuent de mentir de manière éhontée. Ils font des promesses à la légère, mais notre Dieu n'est pas ainsi. Ce que Dieu dit, eh bien, il l'accomplit. Et donc, c'est pour cela que nous devons nous attacher à sa parole. Amen. Donc, ayons confiance, bien-aimés, peu importe le temps que cela prend, peu importe les obstacles qui peuvent se mettre sur la route de la promesse divine, peu importe les attaques, peu importe les moqueries, peu importe les intimidations, les menaces, les persécutions de l'adversaire, rien ne peut arrêter l'accomplissement de la promesse divine. Amen. Troisièmement, donc il dit, la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. N'est-ce pas extraordinaire que le Messie soit appelé Dieu avec nous? Il ne nous laisse pas seuls, il est venu pour être avec nous. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous savons qu'il sera là avec nous. Amen. Parce que notre Dieu, il est toujours là au rendez-vous. Il est avec nous. Et j'aimerais qu'on relise encore ce passage que nous avons lu dans Ésaïe. Et alors, Ésaïe 8:10, où il est écrit ceci. Vous aurez beau prendre des décisions, elles sont sans effet. Donc, l'adversaire peut prendre n'importe quelle décision. À notre égard, eh bien, ces décisions-là seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas. Hein, tu peux maudire. Elle ne s'accomplira pas. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Emmanuel. C'est-à-dire que peu importe les circonstances, nous avons la garantie que Dieu est avec nous. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu est avec nous. Les hommes, parfois, peuvent être avec nous dans les bons moments. Hein, celui qui est riche, célèbre, a beaucoup d'amis. Son entourage est nombreux. Mais quand ça va mal, eh bien, tout le monde part. Tout le monde se disperse. Mais heureusement que notre Dieu, lui, il est là en tout temps. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est pour ça que Paul pouvait écrire, qui nous séparera de l'amour de Christ? On peut lire ce passage. Romains 8, un passage extraordinaire. On va lire à partir du verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? C'est-à-dire, dans la détresse, il est là. L'angoisse? Dans l'angoisse, il est là. Parce que lui-même a connu l'angoisse. Il a connu l'angoisse. Au jardin de Gethsémané. L'angoisse. Jésus voyait déjà tout ce qui allait se passer. Et c'est pour ça qu'il avait cette angoisse. Il voyait déjà ses disciples se disperser. Il voyait déjà, eh bien, cette souffrance qu'il allait avoir. Il voyait déjà tout le péché du monde qui allait s'abattre sur lui. Il voyait déjà quand il allait crier « Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il voyait tout cela, donc il a connu l'angoisse. Et donc, c'est pour cela qu'il peut nous accompagner aussi dans l'angoisse. La persécution, il a connu aussi la persécution. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. La faim, il a connu la faim. Donc, il peut être avec nous au moment même lorsque nous connaissons la faim. Le dénuement, on a déchiré ses vêtements. Le danger ou l'épée. Aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Christ. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, verset 37, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi est-ce que nous sommes plus que vainqueurs? Parce qu'il est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire, c'est lui qui combat pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Il nous aime tant qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est là à nos côtés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, parce que même dans la mort, c'est le seul qui sera toujours avec nous. Ni la mort, ni la vie, que ce soit mort ou que ce soit vif, il est avec nous. Ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Emmanuel, quelle promesse! C'est plus qu'une promesse, c'est une réalité. C'est une réalité. Emmanuel. Donc Dieu, il nous a vu qu'on était seul, abandonné, errant, et il a dit, ils ne seront plus errants. Ils ne seront plus seuls. je leur enverrai mon fils. Donc, mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul ce matin. Amen. Tu n'es pas seul parce qu'il y a Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu. Il est toujours là avec nous. Et nous pouvons le prier à tout moment, peu importe là où on se trouve. On n'est pas obligé d'aller quelque part. Hein? On n'est pas obligé d'aller à Jérusalem ou d'aller à la Mecque ou d'aller à Rome, mais il est avec nous. La parole de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple physique, de mortier n'existe plus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu est avec nous. Il est là avec nous. N'est-ce pas merveilleux? Donc l'implication de la naissance d'Emmanuel. Rien n'est impossible à Dieu. Vous n'avez jamais entendu ça avant, mais Dieu va le faire. Amen. Vous savez, lorsque Noé a prêché, pendant 120 ans, il a dit, il va pleuvoir. Mais avant Noé, la pluie n'était jamais tombée. Et les gens disaient, ouf, de quoi est-ce qu'il parle? Il est fou. Pendant 120 ans. Et puis à un moment donné, la pluie a commencé par tomber. Et c'est là qu'ils ont voulu entrer dans l'arche. Mais Noé a dit, désolé, ce n'est pas moi qui ai fermé la porte de l'arche, c'est le Seigneur lui-même. Jamais ils n'avaient vu ça auparavant. Donc ne vous laissez pas, comment est-ce que je pourrais dire, troublés, bloqués par le fait, ah, on n'a jamais entendu ça avant. Ça ne s'est jamais fait auparavant. Ce qui ne s'est jamais fait auparavant, Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce que Dieu réserve pour ses enfants. Amen. Dieu réserve pour ses enfants. Et ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Est-ce que tu connais les promesses de Dieu pour toi ce matin? Connais les promesses de Dieu. Et cela te rendra fort, cela te rendra inébranlable, cela t'aidera à persévérer avec lui. Cela te rendra fort lorsque le diable viendra te tenter, viendra essayer de t'insuffler toutes sortes de mensonges. Lorsque le diable viendra te dire, ah, ça ne sert à rien d'aller à l'église, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de lire la Bible, tu pourras chasser Satan et dire, le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit ceci. Et donc, accroche-toi à la promesse divine. Et sache aussi que tu n'es pas seul. Parce que Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.